Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Heureux de vous retrouver en ce mardi 30 janvier 2024. Jacques Aristide en direct de Washington pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. À la une de l'actualité ce matin, au Niger, au moins 22 civils tués dans l'attaque d'un village près du Mali. Bamako et Ouagadougou ont envoyé une notification formelle de retrait à la CEDEAO. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, avertit que sans argent frais, ce qui a été accompli en Ukraine sera compromis. Coupe d'Afrique des Nations de football, qualifiée miraculeusement en huitième, la Côte d'Ivoire élimine le Sénégal pour aller en quart de finale. Du football pour démarrer, la Côte d'Ivoire s'est donc qualifiée hier soir pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en éliminant le Sénégal, tenant du titre et grand favori du tournoi, alors que les dernières huitièmes se jouent ce soir. Tout ce qu'il faut savoir dans le journal de la CAN que nous envoyés Baga Sikoura et Yacouba Ouedraogo nous ont fait parvenir depuis Yamoussoukro.
Bonjour à tous. Deux matchs au programme ce soir. Le Mali fait face au Burkina Faso au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo dans le nord à 17h temps universel. Le sélectionneur du Mali, Sékou Chiel, dit attendre un match plein de la part de ses joueurs.
Qu'est-ce que j'attends de ce match-là? J'attends déjà de mes joueurs qu'ils fassent un match plein, aussi bien sur le plan physique, technique et mental. Et le but du jeu, c'est de se qualifier pour le prochain tour.
Sékou Chiel, sélectionneur du Mali, au micro de Siaka Traoré, notre envoyé spécial à Korogo. En face, son homologue du Burkina Faso, Hubert Velut, soutient que ses poulains sont physiquement prêts.
Et tout le monde est disponible pour le match, il n'y a pas de suspendu, pas de blessé. Jusque-là, en tout cas, je pense que vraiment nous sommes prêts physiquement, tactiquement, même si on n'a pas encore choisi dans quel système nous allons jouer, mais au moins on a travaillé plusieurs choses. Donc
Hubert Velut, sélectionneur du Burkina Faso au micro de Kader Traoré, notre envoyé spécial à Korogo. Après Mali-Burkina Faso, le Maroc et l'Afrique du Sud vont boucler ces rencontres des huitièmes de finale. Coup d'envoi 20h temps universel au stade Laurent Pokou de San Pedro.
On a récupéré quand même 5 jours pour être au meilleur de notre forme, mais on est sur tous les scénarios. Je reviens sur l'humilité, sur le respect d'équipe adverse et surtout sur le format de la compétition. On voit qu'il y a beaucoup d'équipes qui étaient ou à deux doigts d'aller en prolongation ou qui ont été en prolongation. On est préparé à tous les scénarios.
Walid Regragui, sélectionneur du Maroc au micro d'Amin Birouk, notre envoyé spécial à San Pedro. Le vainqueur de la rencontre Mali-Burkina Faso va affronter la Côte d'Ivoire en quart de finale. En effet, ressuscité, les éléphants sont venus à bout du Sénégal au tir au but, au stade Charles Kona Bani de Yamoussoukro, au bout d'un match épique. Le compte-rendu de la rencontre avec Baga Sikoura.
Toute la Côte d'Ivoire n'a pas dormi la nuit dernière. Les éléphants ont redonné de la joie à leurs millions de fans.
Nous sommes quittés à Abidjan pour venir assister au match des éléphants. Ils nous ont fait honneur. Félicitations aux éléphants.
Ce que nous avons aimé, c'est la combativité de nos éléphants. Ils sont battus du début jusqu'à la fin et cela a payé et nous sommes qualifiés pour les quarts de finale.
Tout avait pourtant mal commencé pour la Côte d'Ivoire qui a subi d'entrée la vista de l'équipe sénégalaise. Sur une accélération éclair, les Lions de la Teranga ouvrent le score par l'entremise d'Habib Diallo, servi par Sadio Mané à la 4e minute. Jean-Michel Seri, homme du match.
On n'a pas bien débuté les 10 premières minutes du match, mais après le but, nous avons su réagir. On a dominé de bout en bout. Ça a été une prestation, une performance collective.
Les Ivoiriens prennent le contrôle du jeu, poussent, mais ne trouveront pas le chemin des filets jusqu'à la mi-temps. En seconde période, les éléphants mettent toujours le pied sur le ballon. Ils multiplient les tentatives, mais attendent les entrées de jeu décisives de Sébastien Haller et Nicolas Pepe pour enfin provoquer un pénalty transformé par Franck Kessié, lui aussi entré en cours de jeu. À un but partout, le score restera inchangé jusqu'à la fin du temps réglementaire et des prolongations. Place est faite au tir au but remporté par la Côte d'Ivoire avec 5 tirs réussis contre 4.
De là où on vient, j'avais peur d'encaisser un but rapidement, c'est ce qui s'est passé. Là où il faut féliciter les joueurs, c'est qu'ils ont eu
une réaction d'homme. J'avais demandé avant le match que de retrouver mes éléphants, de retrouver des hommes, de retrouver des guerriers. Et sur ce match, sur cette qualification, de montrer que c'était des guerriers.
Emers Faye, sélectionneur de la Côte d'Ivoire, son homologue sénégalais, Aliou Cissé, reconnaît que ses poulains n'ont pas été à la hauteur.
Quand on gagne, bah on est heureux. Quand on perd, il faut garder sa dignité. Donc dans la défaite, nous garderons notre dignité. Mais c'est un match un peu bizarre, avec beaucoup de faits de jeu.
Cette victoire ivoirienne a été célébrée dans les rues de Yamoussoukro. Désormais, l'amour régnait entre les éléphants et leurs supporters.
Voilà, aujourd'hui, l'éléphant de Côte d'Ivoire nous a montré le vrai jeu. Nous avons battu le champion d'Afrique. Vraiment, nous sommes félicitations à nos enfants, nos partis d'âme. Ils ont mouillé le maillot.
Depuis l'Égypte qui a conservé son titre en 2010, aucune nation championne en titre n'a franchi les quarts de finale lorsque la CAN se jouait à 16 et les huitièmes depuis qu'elle se joue à 24. Le Sénégal n'a donc pas échappé au signe indien. Bagassi Koura, Yamoussoukro pour VOA Africa.
Merci Bagassi, c'est ici que nous refermons cette édition du journal de la CAN, préparée et présentée depuis la capitale politique de la Côte d'Ivoire.
C'était donc le journal de la CAN. Ailleurs dans l'actualité, au Niger, au moins 22 civils ont été tués dans une attaque de djihadistes présumés contre le village de Motogata dans la région de Tillabéri, qui est proche du Mali. Un élu local indique que quelques miliciens d'autodéfense figurent parmi les victimes de cette attaque perpétrée dimanche dernier par des assaillants arrivés dans le village sur 20 motos transportant chacune 2 personnes. Il ajoute qu'ils se sont mis à tirer en faisant des morts sur place. Le Mali et le Burkina Faso ont envoyé hier à la CEDEAO une notification formelle de leur retrait du bloc ouest-africain. Aucune information n'a été publiée pour le moment côté nigérien, mais les communications maliennes et burkinabais soulignent le caractère commun de l'action des trois pays. Les réactions continuent d'affluer. Après l'annonce choc de ces trois États sahéliens, le ministre burkinabais des Affaires étrangères reconnaît que quitter la CEDEAO aura des répercussions en ce qui concerne la libre circulation des personnes et des biens, mais il soutient que son pays va développer d'autres mécanismes pour y faire face. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
À la télévision nationale, Karamogo Jean-Marie Traoré, ministre burkinabé des Affaires étrangères, affirme que la décision aura des implications sur la coopération multilatérale avec les autres pays de l'organisation, ajoutant que le retrait de la CEDEAO est une décision qui aura des conséquences sur la libre circulation des personnes et des biens.
C'est en toute connaissance de cause que les chefs d'État ont pris cette décision, en sachant qu'il y aura effectivement des répercussions. Mais le plus important, c'est de réfléchir sur les mécanismes alternatifs pour faire face à ces répercussions. La libre circulation des personnes et des biens est un grand chapitre et ce secteur va être certainement impacté. Il y a d'autres mécanismes qui nous permettront de régler ça.
Selon l'Agence nationale d'information, le Burkina a envoyé hier lundi une notification officielle à la CEDEAO confirmant son retrait, une décision commune prise avec le Mali et le Niger de quitter sans délai l'institution régionale. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au moins 52 civils et 2 casques bleus ont été tués dans des attaques à caractère ethnique durant le week-end écoulé à Abyé, région pétrolifère qui est contestée entre le Soudan et le Soudan du Sud. Le point avec Rosine Mounezero.
Selon les autorités locales, 52 civils ont perdu la vie, tandis que 64 autres seraient grièvement blessés, a déploré dans un communiqué la force intérimaire des Nations Unies. Aussi, 2 casques bleus, un Ghanéen et un Pakistanais, ont été tués, selon la force onusienne. Selon les autorités, des jeunes armés de la tribu des Tuik, de l'ethnie Dinka, venus de l'État sud-soudanais et des rebelles, ont mené samedi plusieurs attaques contre le marché de Ninkouak d'Abi, principale ville de la région. Au moins une de ces attaques a visé Dengok, autre branche de l'ethnie Dinka vivant à Abi, selon les autorités. L'ONU a appelé à une enquête rapide afin que les auteurs répondent de leurs actes. Un conflit entre les tribus Tuik et Ngok a débuté en 2022 au sujet de revendications foncières. En novembre, au moins 32 personnes ont été tuées dans des affrontements entre les deux groupes. Plus tôt en janvier, le président sud-soudanais Salva Kiir avait appelé à un cessez-le-feu.
Le chef de l'ONU dit condamner ces attaques dans cette région frontalière d'Abyei tout en évoquant de possibles crimes de guerre. Antonio Guterres appelle les gouvernements de Khartoum et de Djouba à une enquête rapide. L'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, a suspendu Jacob Zuma. L'ancien président a déclaré le mois dernier qu'il allait faire campagne pour un autre mouvement en vue des prochaines élections. Claire Morin-Gibourg nous en dit plus.
Zuma et d'autres dont la conduite est en conflit avec nos valeurs et nos principes se retrouveront en dehors du Congrès national africain, a déclaré Fikile Mbalula, le secrétaire général de l'ANC. Cette décision largement attendue est un nouveau signe révélateur des divisions au sein du mouvement à l'approche des élections générales prévues cette année. Éclaboussé par des scandales de corruption dans un contexte socio-économique morose, l'ANC pourrait perdre sa majorité parlementaire pour la première fois de son histoire, selon les derniers sondages. Quatrième président de l'Afrique du Sud de 2009 à 2018, Jacob Zuma a dû quitter le pouvoir suite à des affaires de corruption. En décembre, il a annoncé soutenir un nouveau parti radical, Umkhonto we Sizwe, ou Fer de lance de la nation, baptisé du nom de la branche militaire de l'ANC pendant la période de l'apartheid.
Le Zimbabwe a entamé hier une campagne de vaccination contre le choléra pour immuniser plus de 2 millions de personnes contre cette maladie. L'épidémie a déjà fait des centaines de morts depuis le début de l'année dernière, comme nous le détaille Nani Talami.
Le Zimbabwe va recevoir 2,3 millions de doses de vaccins de l'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé qui seront déployées dans 29 des districts les plus touchés. Plus de 892 000 doses ont déjà été expédiées, a indiqué le ministère de la Santé. La campagne de vaccination a été lancée à Kouadzana, une commune située à environ 15 km de Harare, la capitale. Les agents de santé ont administré les premiers vaccins aux écoliers et ont commencé à faire du porte-à-porte pour proposer des vaccins aux ménages. La campagne utilise le vaccin Evicol Plus, produit par Ebiologics, qui est administré par voie orale et protège contre les infections pendant au moins 6 mois. Le choléra a déjà tué 452 personnes et infecté plus de 20 400 personnes au Zimbabwe depuis le début de l'épidémie en février 2023, d'après les statistiques du ministère de la Santé, et environ la moitié des cas concernent des enfants.
Également dans l'actualité, le chef de la diplomatie américaine a jugé crucial hier que le Congrès approuve une nouvelle enveloppe budgétaire pour l'Ukraine, faute de quoi tout ce qui aura été accompli sera compromis, selon Anthony Blinken. Davantage avec Alexandrine Rolognon.
Sans cela, tout ce que les Ukrainiens ont réalisé et que nous les avons aidés à réaliser sera compromis, a déclaré Anthony Blinken lors d'une conférence de presse aux côtés du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Ce dernier, qui se trouve à Washington pour une série d'entretiens, a lui aussi plaidé pour le maintien de l'aide à l'Ukraine, soulignant que la guerre brutale menée par la Russie contre l'Ukraine approchait de son deuxième anniversaire et qu'une victoire de la Russie ne ferait qu'enhardir l'Iran, la Corée du Nord et la Chine. Monsieur Stoltenberg a été reçu dans la matinée par le chef du Pentagone, Lloyd Austin, et s'est aussi entretenu avec le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan. Il est attendu ce mardi au Congrès pour y rencontrer les responsables républicains et démocrates qui négocient pied à pied un accord sur une nouvelle enveloppe budgétaire pour l'Ukraine, se disant confiant que les États-Unis et les pays alliés continueraient à soutenir l'Ukraine.
Washington promet des représailles conséquentes après une frappe de drone en Jordanie imputée à des groupes pro-Iran qui a coûté la vie à 3 militaires américains, Téhéran démentant toute implication dans l'attaque. Les États-Unis ne cherchent pas la guerre avec l'Iran, a déclaré hier John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Mais cette attaque représente une escalade, que ce soit bien clair, et elle appelle une réponse. Le président Joe Biden a rencontré de hauts responsables pour discuter de la situation, dont Jake Sullivan, son conseiller à la sécurité nationale, Brett McGurk, son conseiller pour le Moyen-Orient, et Lloyd Austin, son ministre de la Défense. D'intenses combats font rage ce mardi dans la ville de Khan Younes à Gaza, théâtre de frappes israéliennes, rapportent des témoins.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, Jacques Aristide toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Nouveau gros plan ce matin sur le retrait du Mali, du Burkina et du Niger de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Une décision qui a ébranlé cette partie du continent. Au Nigeria, dont le chef de l'État Bola Tinubu préside l'organisation, les avis sont partagés, comme nous allons l'entendre dans le reportage de Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja.
Au dernier sommet de la CEDEAO à Abuja, le bloc avait finalement reconnu la junte nigérienne 6 mois après le coup d'État à Niamey. Niamey, Bamako et Ouagadougou luttent contre les menaces des groupes djihadistes qui se propagent à travers le Sahel, mais menacent la CEDEAO de manque de soutien. Pourtant, leur retrait pourrait aussi avoir des conséquences pour les trois alliés, selon l'expert en sécurité Sadiq Garbacheou.
Il sera une menace pour les trois pays et aussi pour la zone de CEDEAO et le Sahel. Il n'est pas dans le plan sécurité, ce n'est pas dans l'intérêt de personne que le CEDEAO se détruise comme ça. Parce que être membre de CEDEAO là, ça apporte des avantages à tous les pays.
Après les récents coups d'État, la CEDEAO a imposé des sanctions économiques et a suspendu les trois pays de l'Union, provoquant une flambée des prix des denrées alimentaires. Farouk Bibi Farouk, qui enseigne à l'université d'Abuja, parle d'un retour à la réalité.
La solution est de regarder les protocoles de la CEDEAO eux-mêmes, de revenir à ses missions fondatrices, d'essayer de réduire l'aspect du développement de nouveaux protocoles qui sont les résultats du vent démocratique qui a soufflé dans les années 80, et revenir à la réalité, c'est-à-dire que nous avons besoin de nous-mêmes et que nous ne sommes pas les inventeurs de la démocratie.
Les citoyens de la CEDEAO sont autorisés à entrer et à sortir gratuitement sans visa pour une durée maximale de 90 jours. Les ressortissants du Mali, du Niger et du Burkina Faso risquent de perdre ces droits, sauf lorsqu'il est couvert par des accords bilatéraux distincts. Une préoccupation pour certains Nigériens comme Bayo Ayojobi, un habitant d'Abuja.
Je dirais que c'est une terrible nouvelle pour l'Afrique, et en particulier l'Afrique de l'Ouest. De telles choses déstabilisent notre économie, déstabilisent notre coopération de voisinage, car nous sommes liés à ces États, et nous avons une coopération militaire, avons une coopération économique. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles la CEDEAO est née. Donc, je pense que c'est une très mauvaise nouvelle, et j'appelle à une résolution diplomatique et à une réponse très rapide à la sortie annoncée par eux.
La sortie du Mali, du Niger et du Burkina Faso du bloc sous-régional pourrait prendre environ 1 an pour être finalisée. Pour rappel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont chassé les troupes françaises et les troupes de l'ONU et ont formé une alliance des États du Sahel. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Togo, le Fonds national de la finance inclusive permet aux populations vulnérables d'accéder à des crédits initiaux de 30 000 francs CFA pour des activités génératrices de revenus. Le programme a notamment pu aider des centaines de milliers de femmes à sortir de la pauvreté. Nombre d'entre elles sont même passées au statut d'entrepreneur avec des crédits de plus de 10 millions de francs CFA. De Lomé, le reportage de notre correspondant Kossi Boussou.
Devant son petit étalage de produits céréaliers dans le quartier Adouba, dans la capitale togolaise, Dame Yawa a l'esprit tranquille. Le crédit de 30 000 francs CFA octroyé par le Fonds national d'inclusion financière lui permet de subvenir aux besoins de sa famille.
En 2016, j'ai commencé par bénéficier de FNFI. 30 000 francs maintenant, ça m'a aidé par petit commerce. Avec le petit bénéfice que je trouve, ça m'aide à soulager mes enfants à l'école.
À l'exemple de Dame Yawa, ce sont de nombreuses femmes togolaises qui se sont réalisées grâce à ce programme. À partir du prêt initial de 30 000 francs, certaines sont devenues des importatrices de produits.
Auparavant, c'est les autres dames qui voyageaient payer les choses venir nous vendre. Mais aujourd'hui, par sans l'aide de la FNFI, c'est nous-mêmes qui voyageons pour amener et distribuer à ceux qui sont là.
Initié en 2014 par les autorités togolaises pour favoriser l'inclusion financière des populations vulnérables à travers le microcrédit pour tous, ce sont plus de 109 milliards de francs CFA qui ont été octroyés à plus d'1,8 million de personnes en 10 ans. Songaï Ntassim est le directeur général du FNFI.
Le FNFI est un catalyseur de changement, un facilitateur d'opportunités, un acteur actif dans le développement économique inclusif. Aujourd'hui, 10 ans après, on se rend compte des performances réalisées par le fonds qui ont permis aujourd'hui une transformation totale des bénéficiaires qui sont passés de simples activités génératrices de revenus, sont devenus pratiquement des entrepreneurs aguerris.
Dame Ameyo est l'exemple typique de cette transformation. Assise au devant de son magasin de vente de divers produits, elle raconte son parcours avec son premier prêt de 30 000 francs CFA.
J'ai fait 10 ans avec FNFI. J'ai commencé avec 30 000 francs et aujourd'hui je suis au deuxième cycle de Cordedé qui est à 10 millions. FNFI nous a libérés de beaucoup de vices, de l'oisiveté. Nous progressons, nous les femmes togolaises.
Pour la réussite du programme, les institutions de microfinance et les banques ont été associées dans l'octroi des crédits. Après 2 ans de collaboration, Aura Bank, l'un des partenaires du FNFI, veut augmenter le montant des crédits aux femmes. Guy Martial Awona.
Au terme de la deuxième année de partenariat, au regard des besoins exprimés par les femmes et du bon taux de remboursement qui se situait autour de 98%, Aura Bank s'est encore une fois engagée aux côtés du FNFI pour porter le montant maximum de financement par bénéficiaire à 50 millions.
Et ce n'est pas pour déplaire à 5 millions de femmes togolaises qui n'attendent que les opportunités de ce genre. Kossi Woussou, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a renvoyé plusieurs employés accusés d'avoir participé à l'attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre. L'État hébreu a salué la décision de plusieurs pays, dont les États-Unis, de suspendre le financement de l'agence. Les inquiétudes se vont jour quant à l'impact de cette décision sur les Palestiniens de Gaza qui se démènent pour trouver de la nourriture en raison de la guerre en cours. Véronica Balderas-Iglesias s'en parle dans ce reportage relaté par Gabi Dorsil.
Appelant à la libération des otages, des manifestants israéliens se sont rassemblés dimanche au poste frontière de Kerem Shalom et ont temporairement bloqué l'aide humanitaire à Gaza. Les Palestiniens ont fait les pieds et les mains pour obtenir des sacs de farine, alors que les Nations Unies ont mis en garde contre la famine dans certaines régions. L'un des Palestiniens déplacés a parlé à Reuters de cette situation critique sans donner son nom.
Cette somme est destinée à 7 personnes, vous voyez comment c'est peu? Cela coûte 50 shekels.
C'est environ 13 dollars américains. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, chargée d'aider environ les 2/3 des 2 300 000 habitants de Gaza, est aujourd'hui confrontée à sa propre crise. 12 membres de son personnel ont été accusés d'avoir participé à l'attaque terroriste du Hamas en Israël le 7 octobre, qui a fait 1 200 morts et 240 otages. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a confirmé dimanche dans un communiqué que plusieurs accusés avaient été licenciés et qu'une enquête était en cours. Il a également appelé au moins 11 pays, dont les États-Unis, à reconsidérer leur décision de cesser de financer l'agence. Les représentants permanents de la Ligue arabe ont tenu une réunion d'urgence au Caire pour discuter de la question. L'ambassadeur Mohanad Akhlouk est le représentant permanent de la Palestine auprès de la Ligue arabe.
Les pays sont responsables de la poursuite du financement de l'UNRWA et ne doivent pas faire deux poids, deux mesures. Ils ne doivent pas réagir à la hâte.
L'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Gilad Erdan, a averti dimanche que les pays qui continuent à financer l'UNRWA avant qu'une enquête complète ne soit achevée devraient savoir que leur argent pourrait être utilisé pour le terrorisme. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a quant à lui tenté d'apaiser chez lui les manifestations de ceux qui lui demandent d'en faire plus pour assurer le retour des otages et qui appellent le dirigeant israélien à démissionner.
Cela ne fait que renforcer les exigences du Hamas, cela ne fait qu'augmenter leurs exigences et éloigner l'objectif que nous voulons tous, le retour de tous les otages.
Alors qu'Israël continue de cibler les militants du Hamas à Gaza, des représentants du Qatar, d'Israël, des États-Unis et de l'Égypte se seraient rencontrés dimanche pour négocier un nouveau cessez-le-feu potentiel et la libération d'autres otages. Cette nouvelle intervient alors que le ministère de la Santé, dirigé par le Hamas, a annoncé que le nombre de civils tués dans la bande de Gaza avait dépassé les 26 000.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde, d'après l'OMS. Consciente de cette réalité, la diaspora africaine, ici aux États-Unis, a tenu au cours du week-end écoulé une conférence de sensibilisation. L'événement, qui a eu lieu à Silver Spring, dans le Maryland, a notamment eu pour objectif d'aborder les causes, les symptômes et les moyens de prévention des maladies cardiovasculaires. Nanit Talani y était et nous propose ce reportage.
La mission première, c'est éduquer les communautés sur les risques, les signes avant-coureurs et la prévention des maladies cardiovasculaires. Miranda Siakat est formatrice en CPR.
Quand personne a l'arrêt cardiaque, nous recommandons, nous voulons éduquer le peuple, de comprendre que ça c'est un problème d'urgence auquel l'action doit se prendre immédiatement. Puisque notre tissu, notre organe a besoin de l'oxygène. Et quand notre organe manque de l'oxygène, dans les 5 minutes qui suivent, nous pouvons, la personne peut mourir. Merci, dans les 5 minutes là, si nous pouvons prendre l'action immédiatement, cela va sauver la vie de la personne.
Plusieurs spécialistes sont venus partager leur expertise sur les causes et les conséquences des maladies cardiovasculaires. Le docteur Renadin Siaka est spécialiste des AVC.
Quand on voit que les signes sont là, il est très important que dans les minutes qui suivent, une action soit prise pour éviter que, par exemple, le cerveau se dégénère ou bien certaines parties du cerveau perdent leurs fonctions. Plus on prend du temps, plus le cerveau va dégénérer, va perdre ses fonctions progressivement jusqu'à ce qu'on puisse observer une paralysie, c'est-à-dire soit d'une partie du corps, soit de certaines fonctions entières, dépendant de la zone du cerveau qui est affectée.
La sensibilisation a porté aussi sur les soins préventifs et la gestion du stress. Le docteur Siméon Mono est psychologue, spécialiste dans les addictions et les substances.
Vous avez une information qui vous choque. Votre maman est malade, votre enfant est malade, un ami est tombé, il a été chuté, on l'a tiré sur lui. Vous n'avez pas moyen de payer votre facture, votre maison, votre, you know. Toutes ces choses-là peuvent choquer, peuvent développer un choc mental, psychologique et en même temps, vous donnez, vous développez en vous un AVC. Et donc, quand on dit développer, c'est-à-dire que ça va être un électrochoc qui va bloquer la circulation de votre sang. On parle donc d'un sang qui est devenu caillou.
Il fait aussi quelques recommandations de gestes simples qui peuvent prévenir des maladies cardiovasculaires.
Des éléments simples comme l'amitié, comme le sourire, comme des amusements, un temps soit peu pour son bien-être social, son bien-être personnel, être en compagnie avec les amis et autres. Sur le plan environnemental, il faut que nous sachions que notre environnement doit être propre. Sur le plan maintenant spirituel, il faut que nous sachions que c'est important de prier et de prier, d'avoir des moments de relaxation, ce qu'on appelle le développement personnel aussi. Voilà. Ces éléments nous enseignent ou bien contribuent à la santé, au bien-être et peuvent prévenir les maladies cardiovasculaires.
Alain Coué est l'un des organisateurs de l'événement.
Les gens ne sont pas très bien informés parce que peut-être on ne lit pas beaucoup les barrières linguistiques. Et les gens travaillent normalement et ne se donnent pas assez de loisirs et de temps de s'éduquer.
C'est ici que nous allons clore Le Monde aujourd'hui, édition matinale du mardi 30 janvier 2024. La mise en onde a été assurée par Georges Léonard Sagnot. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Je vous souhaite une très belle journée. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt. Au revoir.